Alors, en lisant le programme du Congrès et en écoutant les interventions des collègues, je suis frappé de l'utilisation multiple et polyvalente du rêve éveillé. Ça démontre à quel point cette approche est fertile, stimulante, créative. Toutefois, est-ce que les mots rêve éveillé renvoient à une pratique qui nous serait relativement commune? Et par exemple, à ce jour, y a-t-il une définition précise de ce qu'est la nature même du rêve éveillé, de l'état de conscience dans lequel il se déroule? Donc, au-delà de l'efficacité du rêve éveillé dont nous témoignons tous ici, j'aimerais poser quelques balises concernant la nature même du rêve éveillé. Alors, et tout d'abord, une première perplexité concernant le terme d'imagination ou d'imaginaire, souvent utilisé pour signifier ce qui se passe en rêve éveillé. Est-ce que le rêve éveillé, c'est de l'imaginaire ou de l'imagination? Certains dénoncent avec force l'imaginaire, qu'ils disent être une voie susceptible de nous leurrer. Tandis que d'autres, au contraire, soulignent avec conviction l'accès aux vérités profondes permis par ce même imaginaire. Donc d'un côté, on trouve, du côté critique de l'imagination, l'imagination folle du logis, qui peut nous illusionner, nous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme on dit en français, la rêverie imaginaire compensatoire dont les fantasmagories sont au service des mécanismes de défense, le poids de l'imaginaire illusoire, si l'on en croit Lacan, qui décrit le moi comme un porte-manteau d'identification et de croyance imaginaire. Si on est d'accord avec cette position, le pire serait de laisser se développer un rêve éveillé imaginaire, mettant en scène essentiellement les défenses du moi, et dans lequel l'activité du patient dans son rêve éveillé serait fortement sous le contrôle des désirs conscients. Les images et les actions dans ce rêve éveillé seraient choisies activement par le patient, et l'imagination fournissant alors l'habillage nécessaire à une histoire politiquement correcte. D'un autre côté, du côté enthousiaste de l'intérêt de l'imagination, comme nous le voyons chez Valéria Chioré, tout au contraire, un imaginaire qui permet la survenue de vérités secrètes, aussi bien personnel que transpersonnel ou même mythologique. Les tests projectifs nous ont habitués à découvrir cette utilisation de l'imagination, que ce soit au TAT ou au Rorschach, par exemple. L'imagination déploie et développe ce dont le sujet est porteur à son insu. Donc, de ce côté-ci enthousiaste, l'imagination représente tout au contraire une richesse, une possibilité d'accès à la symbolisation. Reconnaissons cependant que limiter le rêve éveillé à son aspect de test projectif et l'utiliser ensuite pour aider le patient à s'approcher de l'interprétation de ce qui cherche ainsi à s'exprimer en lui, ce serait passer à côté d'un élément essentiel du rêve éveillé, celui d'une expérience fortement vécue, presque hallucinatoire, susceptible d'une transformation profonde des traumatismes infantiles. Du coup, nous voici conduits à nous poser en contrepoint de l'imagination la question de l'hallucination. L'hallucination n'a pas meilleure presse que l'imagination dans sa capacité à nous illusionner. Elle est même pire puisqu'elle instaure un vécu porteur du sceau de la réalité, de la vérité, alors même que cette réalité n'existe pas. L'hallucination est similaire à la perception, sans en être une cependant. On aurait donc tendance à s'en méfier considérablement, puisque cette expérience hallucinatoire vient ébranler un point fondamental de notre existence, l'épreuve de réalité. Si on admettait l'idée d'un rêve éveillé fortement teinté d'hallucinatoire, on commencerait à s'inquiéter de notre capacité à faire délirer nos patients. Et pourtant, Freud nous dit, dans « Construction dans l'analyse » en 1937, autrement dit à la fin de sa vie, « On n'a pas encore assez apprécié ce caractère peut-être général de l'hallucination d'être le retour d'un événement oublié des toutes premières années. » Et aussi, je cite, « On est amené à admettre que la croyance compulsive que rencontre le délire tire sa force justement de cette source infantile. Ajoutons-y cette autre phrase tirée de l'interprétation des rêves de Freud. Désiré a dû être d'abord un investissement hallucinatoire du souvenir de la satisfaction. Désiré, souvenir de la satisfaction, hallucination. Nous commençons alors à penser que l'hallucination pourrait avoir ses lettres de noblesse. Mais au fait, l'hallucination est-elle réservée aux psychotiques ? Ou bien se trouve-t-elle beaucoup plus présente en nous qu'il n'y paraît ? Il semble que l'hallucination soit très facilement en passe de survenir dans notre existence. Citons Winnicott dans Le développement affectif primaire, lorsqu'il parle de, je cite, « la capacité innée que possède tout être humain de devenir non intégré, dépersonnalisé, et de sentir que le monde est irréel. Il suffit d'un manque de sommeil assez important pour que ces conditions apparaissent chez n'importe qui. » Un manque de sommeil, et aussi de très nombreuses autres occurrences, comme le montrent les travaux concernant l'hallucination, c'est-à-dire ce qui est vraiment pris pour une perception réelle. Le deuil et l'hallucination de la personne morte, c'est courant. Un sevrage d'alcool, les bêtes qui courent sur la peau dans le délirium tremens. Une relative isolation sensorielle. Le désert et ses mirages. Un grand isolement social. L'ermite dans sa grotte qui voit des divinités. Des drogues, LSD, ayahuasca, etc. Des médicaments. Une fièvre élevée, etc., etc. Et il y a même une plus grande occurrence d'hallucination lorsque la personne est porteuse d'un déficit sensoriel, surtout de la vue et de l'ouïe, et encore plus chez un sujet âgé. Ainsi, le syndrome de Charles Bonnet, qui est connu en médecine, consiste en des hallucinations visuelles, complexes, presque des rêves éveillés, chez des sujets âgés sans troubles mentaux. Et ce sont des hallucinations. En résumé, tout ce qui favorise la survenue d'hallucinations s'appuie sur la perte des repères. Perte des repères perceptifs, habituels, donc isolation sensorielle, le désert, la haute mer, diminution de certains sens, la vue, l'ouïe, dans le syndrome de Charles Bonnet, perte des repères sociaux, l'ascète dans sa grotte, le prisonnier à l'isolement, les tortures par isolement, perte des repères interoceptifs, privation de sommeil, fièvre élevée, drogue, trouble mental affectant le décodage des signaux interoceptifs mal différenciés des signaux perceptifs externes. Or, que sont tous ces repères perceptifs, sociaux, interoceptifs ? Ils sont le fond stable sur lequel peut se dessiner la forme perceptible. Si le fond est brouillé, alors toute forme est prise sans recul, comme étant la réalité, la vérité. Forme qui d'ailleurs elle-même n'a pas alors une précision importante. Ses contours sont relativement approximatifs et se dessinent plus nettement seulement lorsque le langage les décrit. Le langage est une tentative pour cerner l'image, surtout lorsqu'il s'adresse à quelqu'un. Ce langage adressé sortira alors plus ou moins l'hallucination de son fond flou et de ses contours changeants. Pour en revenir à la perception, alors je vais dire des choses, j'espère que Ricardo Fessé sera d'accord avec moi. Pour en revenir à la perception, puisque l'hallucination est une perception sensorielle qui donne la même sensation immédiate de réalité qu'une perception réelle. Rappelons-nous les différents travaux neurologiques qui ont été faits. Nous ne percevons jamais directement. La perception, c'est une déconstruction, puis une reconstruction, sous forme de représentation. Le cerveau analyse en différents secteurs, un pour la couleur, un pour la forme, un pour le mouvement, etc., avant de recoller les morceaux et de reconstruire l'image de l'objet perçu. Le réel externe n'est perçu que sous sa forme de réalité interne, reconstruite. Certains ont pu dire que le réel nous est inaccessible. Et nous devons bien admettre en effet que d'autres aspects, l'ultraviolet, l'infrarouge, etc., sont inaccessibles à notre réalité propre, perceptive. Qu'est-ce que vraiment ce réel ? De plus, il est nécessaire que cette image perçue, reconstruite intérieurement, donc à partir des différents morceaux du cerveau qui l'aura construit, trouve sa place dans notre cerveau. Ricardo parlait du contexte. Pour cela, deux conditions sont nécessaires. Un, le langage qui lui donnera une forme définitive à cette perception qui est devenue une représentation. Et deux, l'autorisation donnée par l'autre, par le contexte, par l'environnement. Le langage. Les Inuits voient, perçoivent de très nombreux types de neige et ont des mots pour les désigner, pour différencier leurs couleurs. Cependant que nous-mêmes voyant la même neige, nous dirons « elle est blanche ». Et nous serons démunis de la possibilité de percevoir autre chose que ça. Donc le langage nous a pas permis de voir autre chose que ça. Et d'autre part, la place du contexte, la place de l'autre. Si la perception n'est pas autorisée ou même n'est pas pensable, alors, bien que le cerveau ait reçu tous les éléments nécessaires, nous ne verrons pas, nous ne percevrons pas. C'est ce qu'on appelle l'hallucination négative, qui fait disparaître le perçu. Le perçu est non représenté et il n'a pas de lieu d'accueil pour trouver sa place. Et il constitue alors un objet non digéré. Pensons à la cécité hystérique, ou bien pour ceux qui connaissent au phénomène du gorille qui traverse la scène sans qu'on l'ait vu. Peut-être certains d'entre vous connaissaient cette expérience. Ou plus généralement les exemples psychopathologiques de non-perception d'un objet ou d'une personne qui est devant soi. Ainsi, y a-t-il en nous d'un côté une perception objective qui nous amènera une représentation interne sur laquelle nous enclencherons notre pensée et notre imaginaire, et d'un autre côté un risque perpétuel d'hallucination dès lors que les repères ne sont pas donnés clairement. Guy Lavallée, un psychanalyste français spécialiste des médiations thérapeutiques. Le rêve éveillé est une médiation, n'est-ce pas ? Nous indique, je cite, il faut donc parler d'un potentiel hallucinatoire positif et négatif, présent et actif en permanence dans la psyché de chacun, tout au long de notre vie, depuis notre naissance jusqu'à notre dernier souffle. Fin de citation. Ce qui veut dire que sous le flot habituel de nos perceptions et pensées, court une force hallucinatoire purement subjective, une réalité toujours prête à venir colorer notre vie. Et pour Guy Lavallée, c'est une des conditions pour que nous nous sentions vivants. Nous verrons un peu après pourquoi ça. Voici d'ailleurs quelques citations qui illustrent cette idée qui nous feront penser au rêve éveillé. Je cite. La vivance, la vivacité de la représentation n'est pas seulement assurée par le quantum d'affect, c'est la charge hallucinatoire de la représentation ou de la perception qui va en assurer le degré de vivance, de vivacité, j'allais dire de vérité subjective, en tout cas de conviction. Fin de citation. Ce qui signifie qu'au-delà de l'affect ou du sentiment, il est nécessaire qu'un appoint hallucinatoire soit présent pour donner un sentiment de vérité subjective entraînant la conviction. Il complète par, je cite, une certaine quantité d'hallucinatoire doit venir s'ajouter à la liaison préconsciente pour que nos pensées latentes surgissent, et il souligne ce mot, surgissent, vivantes. Je pense que ce soulignement de sa part sur le fait que les pensées latentes surgissent rejoint le fait que l'hallucination suppose une passivité. Les images, les scènes s'imposent sans être choisi volontairement. Suivons-le dans sa pensée et essayons de comprendre pourquoi il écrit, je cite, « L'affect d'espoir est généré par une matrice énergétique d'essence hallucinatoire et acquiert une relative indépendance vis-à-vis des investissements actuels de notre vie. » Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Une matrice énergétique d'essence hallucinatoire qui génère l'espoir et que ceci soit, quel que soit l'état actuel de notre vie. Il y a de quoi s'interroger sur cette matrice hallucinatoire qui génère l'espoir. Sans doute, pour comprendre ceci, devons-nous en revenir à la construction même de la représentation, de l'hallucination, de l'imagination, des fantasmes, du désir. Rappelons-nous les étapes en les schématisant et les articulant les unes aux autres. D'abord, la croyance du bébé en la fusion parfaite avec un monde trouvé créé. Pour l'avaler et bien d'autres, il s'agit là d'un état de satisfaction primaire associé au noyau de l'être. Deuxièmement, durant cette période, l'expérience de plaisir et de satisfaction, qui sont deux choses différentes, la satisfaction supposant l'introjection d'une bonne mère, indépendamment du plaisir. Troisièmement, le désir, sous forme d'investissement hallucinatoire du souvenir de la satisfaction, confère la citation de Freud que je vous ai fait tout à l'heure. Désirer a dû être d'abord un investissement hallucinatoire du souvenir de la satisfaction. Cette hallucination du sein, source de plaisir et de satisfaction, se voit dans la motricité de l'enfant, dans sa manière de chuchoter ses lèvres, par exemple. Le corps est mobilisé par la pulsion et par l'hallucination. L'espoir est là, ainsi que la joie hallucinatoire et la mise en mouvement pulsionnelle, sensorie, motrice, affective, qui permet une proto-représentation du sein. Ici, je pourrais citer ce qu'écrit René Roussillon en 1991. Grâce à la perception, la matière psychique prend forme. Grâce à l'hallucination, la matière psychique prend vie. Et grâce à la motricité, elle deviendra transformable. Mais comme le sein, cinquièmement, n'est pas à la disposition et que l'hallucination n'amène pas la satisfaction, la frustration conduit à découvrir progressivement l'objet externe. La série d'expériences successives sera donc hallucination du souvenir de la satisfaction, frustration, parce que l'hallucination ne comble pas, perception extéroceptive du sein tant attendu, satisfaction par ce sein perçu à l'extérieur et représentation de ce sein. Cette représentation sera progressivement intériorisée au fil des expériences. Le passage par l'extérieur va renforcer et donner des contours aux représentations internes. Et à ce moment-là, la subjectivation s'installe par le jeu entre les représentations. Imagination, fantasme, représentation deviennent le support des pulsions et se relient ainsi aux affects. La symbolisation peut s'installer avec des morceaux séparés. La symbolisation secondaire avec le langage mettra tout ce monde intérieur sous l'emprise du moi. Bon, pour résumer, l'hallucinatoire se trouve être le support le plus vivant, le plus vivace, le plus primaire, relié aux sources mêmes du désir. Et c'est secondairement que s'installeront la représentation, puis l'imagination, le fantasme, la symbolisation, le langage. La primauté de la représentation de choses est en rapport avec la primauté du principe de plaisir et de l'expérience de satisfaction. Ceci explique pourquoi Guy Lavallée écrit, je cite, « L'espoir, c'est l'espoir des retrouvailles hallucinatoires avec l'objet perdu de la satisfaction, le paradis terrestre. » À noter qu'il écrit l'espoir avec un grand E majuscule et il situe donc là ce qu'il appelle notre matrice énergétique. En somme, l'hallucination est à la fois une source énergétique capitale profondément installée en nous pour notre vie durant, et à la fois le danger de retrouver un monde sans frontières, sans limites, sans contours, affolant au sens propre du terme. Comment faire avec ce dilemme? Puisque c'est à la fois notre source énergétique profonde et à la fois ce qui risque de nous rendre fous puisqu'on perd les repères. Comment faire avec ce dilemme sera notre question vitale. Et comment est-ce que ça se jouera en psychanalyse réveillée? Eh bien, il s'agit d'aller retrouver ce noyau fondamental, cette matrice de l'être, sans perdre la tête. Nicole Fabre écrit, et vous le disiez encore ce matin, « Ce renouement avec le soi est fondamental dans la cure. Il suppose le passage en deçà de la zone des conflits, en deçà de la triangulation, en deçà même de l'envie. Et elle ajoute qu'il faut pour cela accepter l'hypothèse d'une instance première et fondamentale en chacun, ce qui rejoint Guy Lavallée. On voit donc que le rêve éveillé devra, d'une part, donner sa place au quantum hallucinatoire qui donnera cette vivance capitale, ainsi que le surgissement du primaire archaïque. Mais qu'il devra, d'autre part, parallèlement, contenir et assurer les frontières. Il s'agira, pour reprendre le thème de Guy Lavallée, d'animer la vie psychique par une charge hallucinatoire, mais celle-ci se module et se contient, je cite, dans des limites convenables pour éviter d'un côté l'hallucination psychotique et de l'autre extrême la vie opératoire. Et c'est là que nous voyons l'articulation entre l'imaginaire et l'hallucinatoire. Le mieux sera que je vous décrive comment nous procédons dans notre école à IRE. Il s'agit de notre pratique, mais nous comprenons très bien, vu les diversités collectives des intervenants présents, que chacun dispose de ses propres repères. Nous avons donc à cœur de créer les conditions nécessaires pour que surgissent, comme il a été dit, des thèmes, des symboles, des actions qui sont reçues passivement, sans avoir été choisies consciemment et volontairement. Mais que ce surgissement passif soit encadré et puisse coexister avec une activité issue de l'imaginaire et du langage adressé au thérapeute. La contention, les limites, les frontières autour de cette expérience quasi-hallucinatoire sont évidemment nécessaires. Ce qui n'est pas sans nous rappeler que dans le Rorschach, un accrochage aux contours et aux repères externes se rencontre lorsqu'il s'agit de délimiter des contenants garantissant des contenus plus indifférenciés et plus archaïques. Nous créons donc les contours qui vont permettre d'établir un contenant sécurisé, permettant de s'aventurer dans une expérience qui sera pour une bonne part hallucinatoire. Comment faisons-nous cela? De nombreuses manières. Premièrement, dans les premières séances, lorsque nous arrivons à la décision d'entamer une psychanalyse rêve éveillé, nous précisons que 1. Le rêve éveillé sera le pivot de la cure et 2. Que par conséquent, il s'agira d'une expérience régulière et fréquente. Nous ne précisons pas le rythme d'émergence de cette expérience, mais nous pensons entre nous qu'en moyenne, il y a un rêve éveillé toutes les 3 séances, sans que ça devienne une obsessionnalité, évidemment. 2. Une fois le rêve éveillé situé ainsi, nous proposons explicitement au patient la possibilité de faire des rêves éveillés. Du moins, le proposons-nous durant toute une première partie de la cure, jusqu'à ce que la personne se soit appropriée ce type d'expérience. Cette proposition est clairement celle d'un rêve éveillé. Voulez-vous que nous voyions ce que va dire le rêve éveillé? Ou une formulation de ce genre. Nous ne confondons pas le rêve éveillé et la pensée en images. Un travail métaphorique est certes toujours intéressant, au détour des images que charrie le discours du patient, mais il ne comporte pas la dimension hallucinatoire d'un rêve éveillé et n'est donc pas de la même teneur. Troisièmement, ce rêve éveillé a donc explicitement un début. Vous pouvez fermer les yeux et laisser venir une image. Ça m'a fait penser aussi à ce qu'on disait à propos des oiles qui tiraient les rideaux. Il y a un début, ils tirent les rideaux. On sait qu'on commence. On sait qu'on commence le rêve éveillé. Et une fin, soit à l'initiative du thérapeute, la séance va se terminer dans quelques minutes, soit à l'initiative du patient. Ce début et cette fin encadrent clairement l'expérience vécue dans le rêve éveillé. Et on ne fait pas de glissement comme ça, c'est un début et une fin. Quatrièmement, l'imagination trouve sa place dans deux secteurs du rêve éveillé. D'une part, dans la mise en route du rêve éveillé lui-même. Et pour cela, nous n'hésitons pas à proposer pour les premiers rêves éveillés une image de départ qui situe le rêve éveillé dans un espace et un temps très différents de ceux de la vie courante. On ne part pas sur vous laissez venir ce qui se passe, ce que vous voulez, parce qu'on risque d'avoir beaucoup de rêves éveillés qui vont tourner autour de « je suis dans ma cuisine, je vois mon papa », etc. Là, une des premières images qu'on propose, c'est vous êtes sur une planète inconnue, ou bien une forêt des temps anciens, ou bien une scène au Moyen-Âge, ou une scène au temps préhistorique, c'est-à-dire on propose d'emblée un décalage par rapport à la vie courante. Par contre, nous n'utilisons que très rarement les thèmes des oiliens, le vase, l'épée, etc., qui sont un peu trop connotés, un peu lourds, quoi, hein. Notre but, c'est surtout de favoriser la diminution des processus secondaires et l'entrée dans un monde non contrôlé, favorisant le surgissement passif d'images qui vont venir parler d'autre chose que de la vie courante habituelle, ou que de papa-maman. Si c'est papa-maman, ça sera un énorme lion dévorant ou une araignée terrifiante, mais ce ne sera pas papa-maman. Pas trop, un peu. En somme, l'imaginaire sert dans deux registres. Premièrement, l'accès au rêve éveillé. Et moi, je compare ça à du petit bois qu'on met pour faire prendre le feu. Il y a besoin d'avoir du petit bois, mais l'important, c'est le feu. Et deuxièmement, le contrepoint actif au sein de la passivité hallucinatoire qu'on a proposée, le choix d'action que fera la personne et qui, là, développera ses propres capacités de faire face avec une autre dimension de lui-même. Cinquièmement, toujours dans l'idée de favoriser le quantum hallucinatoire, la vivance dont parle Guy Lavallée, ou le vivre dont parle Nicole Fabre, nous favorisons ce que nous appelons le rêve éveillé associé, celui dans lequel le patient se sent en train de vivre et de ressentir. Nos interventions éventuelles, évidemment non directives, portent sur les sensations, les couleurs, les bruits, les odeurs, la texture du sol sur lequel marche la personne, etc., ainsi que sur les émotions ressenties. Si la personne est spontanément associée, nous n'intervenons quasiment pas du tout. Si elle a de la peine à s'associer ou à rentrer dans le rêve éveillé, par exemple, elle démarre en disant « il n'y a que du noir », nous proposons quelque chose. C'est comment sous vos pieds dans ce noir? Ou bien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez toucher autour de vous, ou sentir, ou entendre, etc., etc. J'ai bientôt fini, Alberto. Mais certains vont nous dire, il y a des patients qui n'arrivent pas à faire du rêve éveillé. Face à ce qu'on pourrait donc appeler la résistance au rêve éveillé, nous travaillons de trois façons. Premièrement, en supervision, les résistances du thérapeute au rêve éveillé. Beaucoup moins rare qu'on ne le pense, et rationalisées de différentes manières. Ça, ça ne manque pas. Elles sont souvent liées au pôle transférentiel que représente le rêve éveillé, qui est une sorte de troisième pôle dans la cure, et qui peut être source de transfert de la part de l'analyste sur ce pôle, et de transfert négatif éventuellement. Donc en supervision, les résistances du thérapeute au rêve éveillé. Deuxièmement, avec les patients, durant les séances en dehors des rêves éveillés, l'exploration des difficultés qu'ils rencontrent et de leurs origines. Et troisièmement, avec le patient lors du rêve éveillé lui-même, en centrant, comme je viens de le dire, sur l'imaginaire des sensations, afin de favoriser une expérience associée. Expérience associée, c'est un autre nom pour dire hallucinatoire, c'est-à-dire je suis dedans. Ces trois points d'appui font que presque tous nos patients expérimentent et vivent ce rêve éveillé, même des cas lourds, qui mêlent la passivité réceptive hallucinatoire et l'activité imaginaire, permettant au moins de vivre les actions nécessaires à la transformation de ces vécus traumatiques qui émergent ici. Ajoutons bien entendu que tout ça se conçoit obligatoirement dans une relation transférentielle, et que celle-ci imprime sa tonalité au rêve éveillé lui-même. Ce qui explique qu'on ne fasse pas exactement le même rêve éveillé suivant qu'on est avec un analyste ou avec un autre, suivant qu'on est en groupe ou seul. Si le rêve éveillé n'était qu'une expérience hallucinatoire, même contenue et suffisamment bordée, mais sans être immergé dans la relation transférentielle, il donnerait lieu essentiellement à la répétition et aux transformations superficielles dues au désir conscient. Nous en avons eu un bel exemple dans une cure analytique où la patiente vivait depuis son enfance des sortes de rêves éveillés très, très intenses, mais contrôlés, le soir avant de dormir. Elle s'était créée tout un monde, une famille, etc., qui avait fini par l'empêcher de vivre parce que ça devenait véritablement un deuxième monde Et en fait, c'est même ce qui l'a conduite à consulter, parce qu'elle n'arrivait plus à vivre avec ses rêves éveillés qui l'envahissaient toute seule. Ces rêves éveillés, une fois effectués en séance, donc avec quelqu'un d'autre, ont été assez rapidement laissés la place à des transformations qui n'avaient jamais été possibles en dehors de cette relation analytique. La patiente était passée de seule avec ses rêves éveillés à seule en présence, comme l'a expliqué Winnicott. Conclusion. Pour conclure, je dirais que bien évidemment, tout un travail analytique se fait ensuite dans les séances sans rêve éveillé. Et d'ailleurs, un travail analytique essentiellement à base de travail métaphorique et d'interprétation métaphorique. Mais ceci a déjà été largement exploré et théorisé. Ce qui m'importait ici, aujourd'hui, maintenant, c'était de réfléchir avec vous sur la nature même, la texture particulière d'un vrai rêve éveillé, celui qui mélange passivité hallucinatoire et activité imaginaire. En résumé, un rêve éveillé se caractérise par l'intensité du vivre, pour reprendre un des trois V de Nicole Fabre. Et il ne se résume pas à la présence d'images, ou même d'un scénario. Voir et verbaliser, les deux autres V ne suffisent pas. Cette intensité du vivre suppose de laisser place au courant hallucinatoire dont nous sommes porteurs. Le quantum hallucinatoire va bien plus loin que la simple présence de l'affect ou du sentiment. Pour oser se permettre l'entrée dans cet hallucinatoire, le patient devra sentir que cette expérience est limitée et contrôlée. Sinon, il n'y rentrera pas. Et ce seront alors ses supposées résistances. Limitées, dans un temps qui a un début et une fin clairement établis. Contrôlées, par la présence du lien avec le thérapeute, manifesté par le langage à lui adressé. Langage qui lui-même donne des contours au vécu hallucinatoire et qui introduit la possibilité d'un jeu actif du sujet au cœur même de son vécu hallucinatoire. Nous retrouvons là le thème bien ancien, puisque ça date du bouquin « Le rêve éveillé dirigé à l'inconscient » de Jacques Levin et des deux jeux. Ce mixte d'imagination symbolique, issue d'un moi conscient, et d'hallucination, issue des sources mêmes de notre être, permettra que cette expérience rêve éveillé ne se réduise pas à sa dimension projective. Il s'agit d'un vécu qui devient un revécu, transformatif et restaurateur, du fait de l'association entre ces deux jeux, ces deux instances, sous l'égide du lien avec l'analyste. En ce sens, l'expérience du rêve éveillé peut donner lieu à des évolutions et des changements profonds avant même toute interprétation, sous réserve que l'analyste, lui-même présent dans le rêve éveillé du patient à travers quelques symboles, on a tous des exemples où on voit un des symboles qui est en fait la représentation de l'analyste dans le rêve éveillé, donc, sous réserve que l'analyste lui-même présent dans le rêve éveillé du patient à travers quelques symboles, travaille intérieurement à donner du sens à ce qui se joue et se rejoue. Voilà.